Chronique de psychologie sociale avec Roxane de la Sablonnière. Bonjour Roxane.
Bonjour Hélène.
Roxane, professeure titulaire au département de psychologie de l'Université de Montréal, directrice du laboratoire sur les changements sociaux, l'adaptation et le bien-être, ainsi que cofondatrice du projet Intercom. Et aujourd'hui, Roxane, vous nous proposez une chronique préparée avec Noémie Lambert, étudiante à la maîtrise en psychologie à l'Université de Montréal et étudiante à la chaire de recherche du Canada sur la recherche partenariale et l'empowerment des jeunes vulnérables.
Oui, Hélène, je suis vraiment contente d'être de retour aujourd'hui pour cette discussion. Avec cette étudiante, avec Noémie, de mon cours Psychologie interculturelle, on a décidé d'aborder le thème des enjeux vécus chez les jeunes trans, non-binaires, qui sont aussi migrants et racisés, c'est-à-dire des personnes non-blanches exposées au racisme. Le contexte politique actuel montre que nous ne sommes pas à l'abri des reculs du droit des minorités. On l'a vu aux États-Unis, le président Trump a déclaré qu'il y aurait maintenant seulement deux sexes, masculin, féminin. Mm-hmm. Il y a eu une vague anti-immigration aussi aux États-Unis. Par exemple, Trump a suspendu l'entrée des réfugiés. Il y a même le terme « l'effet Trump » qui a été utilisé afin d'expliquer la montée du racisme, de la transphobie, du sexisme et de l'homophobie après les premières élections de Trump aux États-Unis en 2016. Donc, l'augmentation des discours transphobes et anti-immigrants, il y a des impacts importants pour cette population et encore plus chez les personnes qui vivent à l'intersection de ces deux identités. Donc, les jeunes trans qui sont aussi migrants et racisés.
Justement, comment ils réagissent, ces jeunes, face à ces oppressions?
Bien, c'est extrêmement difficile. Puis, évidemment, il y a des pays qui ont plus d'ouverture que d'autres. Donc, il y a beaucoup d'exemples de jeunes qui ressentent des sentiments, qui sont amenés à migrer envers des pays où il y a plus de droits ou une plus grande ouverture aux communautés LGBTQ+, comme le Canada. Donc, il y a une étude qui a été menée, une étude qualitative, c'est-à-dire qu'on a analysé le discours des jeunes entre 19 et 25 ans, donc, dont une personne qui s'appelait Zahin, un homme trans de 19 ans, originaire de Syrie, puis qui a migré, pas seulement pour vivre son identité de genre ressentie, mais aussi pour fuir des violences de son pays d'origine. Donc, il l'a dit, « En arrivant ici, je me disais, merci mon Dieu de m'avoir permis de m'enfuir afin que je puisse finalement être moi-même. Je suis encore très reconnaissant d'être ici, car je ne peux pas m'imaginer de faire ma transition en Syrie ou même être ouvert à propos de ça en Syrie.
Mm-hmm. » Est-ce qu'il y a des reculs au Québec concernant la réalité LGBTQ+?
Oui, il y a beaucoup de reculs partout dans le monde, puis au Québec aussi. On est concerné par ça. Il y a un récent rapport de Gris Montréal de 2025 qui souligne une augmentation du niveau, par exemple, de malaise envers les personnes qui sont issues de la communauté LGBTQ+. Par exemple, on a demandé à des élèves du secondaire quelle serait leur réaction si leur meilleure amie était lesbienne. En 2024, 33% ont répondu qu'ils seraient mal à l'aise ou très mal à l'aise, comparativement à 15% en 2017.
Hey, vraiment des reculs, un grand recul.
Vraiment. Évidemment, la désinformation peut amplifier ces reculs-là et pas juste l'effet Trump qui est responsable de ça, mais il y a beaucoup d'éléments aussi.
De fake news.
Oui, exactement.
Et Roxane, qu'est-ce qu'une transition de genre?
Les jeunes trans et non-binaires, ils vivent une incongruence avec leur identité de genre et le sexe, qui leur a été assigné à la naissance. Donc, l'identité de genre, c'est le genre auquel une personne s'identifie. C'est ce qui est ressenti. Et le sexe assigné à la naissance, ça désigne les caractéristiques sexuelles qui sont visibles à la naissance, ou moins visible pour les filles, là, on s'entend. Donc, un homme trans est une personne ayant été assignée femme à la naissance par l'observation de ses organes génitaux par les professionnels de la santé, mais va s'identifier comme un homme. Il y a trois types de transition de genre. Premièrement, c'est social. Donc, étant donné la modification de l'apparence physique, on peut changer, par exemple, de pronom. La personne peut se faire appeler « il » au lieu de « elle »,« monsieur » au lieu de « madame ». On peut changer de prénom. On peut se faire appeler Alex au lieu d'Alexandra. Il y a une transition qui peut être, la deuxième, c'est médicale. Ça, c'est l'utilisation, on entend souvent des bloqueurs de puberté, l'hormonothérapie, comme la prise de testostérone, puis il y a même les chirurgies là-dedans, donc c'est médical. Et il y a une transition qui est légale. Donc ici, on veut modifier, par exemple, sur notre certificat de naissance, la mention du sexe, donc changer homme pour femme ou vice-versa. Et même changer notre prénom sur cet acte de naissance.
Alors, il y a trois types, social, médical, légal. On peut adhérer aux trois aussi.
Oui, on peut faire les trois, une transition ne veut pas dire qu'on va faire nécessairement les trois. On peut choisir un des trois aussi.
Et quels sont les enjeux qui sont souvent rencontrés chez les jeunes trans et les non-binaires?
Bien, c'est une situation qui est extrêmement difficile, conflictuelle. Les jeunes peuvent avoir des idées suicidaires, automutilation, l'anxiété. Ils peuvent aussi avoir plus de difficultés d'accès à des soins de services de santé, des services sociaux, plus d'abus, plus de violence. Puis aussi, on les retrouve surreprésentés dans les services de la protection de la jeunesse. Les jeunes se sentent rejetés souvent, en manque d'acceptation, puis ils ressentent aussi, vivent beaucoup de transphobie, c'est-à-dire de la discrimination envers eux, des comportements négatifs. Par exemple, une personne pourrait intentionnellement appeler une autre personne par le mauvais prénom. Par exemple, Hélène, si vous voulez que je vous appelle Guy, mais je persiste à vous appeler Hélène, bien, ça vous ferait mal au fil du temps.
C'est sûr, ça me heurterait.
Exactement. Puis, c'est encore plus difficile quand il y a une intersection, c'est-à-dire qu'on est racisé en même temps et on vit un processus de transition de genre.
D'accord.
Donc, ça s'appelle l'intersectionnalité.
Oui. Alors, justement, c'est quoi, avec un peu plus de détails, la théorie, parce qu'il y a une théorie de l'intersectionnalité?
Oui, bien, c'est ça. C'est vraiment quand il y a une intersection entre différentes oppressions.
Le mot le dit.
Oui, le mot le dit. Mais une image très claire, c'est, par exemple, un homme blanc hétérosexuel n'aurait pas d'intersection. Donc, une femme blanche, hétérosexuelle, bien, elle serait une femme. Ça serait probablement juste ça, une situation d'oppression. Par exemple, si elle est
juste
racisée...
Façon de parler.
Si elle est racisée, ce serait deux éléments. Si en plus elle est transgenre, bien là, ça serait un troisième élément. Puis on peut, si
elle... Elle est homosexuelle.
Oui, bien c'est ça. Puis aussi, si, je sais pas moi... elle a un surpoids, bien là, on rajoute des oppressions à chaque fois. Fait que c'est vraiment l'intersection de toutes ces oppressions-là. Puis ça peut être extrêmement difficile pour les gens de vivre ça. Je vais vous reprendre l'exemple de Zahin que je vous ai parlé plus tôt, parce qu'il s'imaginait pouvoir bien vivre son identité en lien avec sa transition de genre. Par contre, quand il est arrivé ici au Canada, il a rapporté être confronté au racisme. Donc, il nous dit... Ils nous ont accusé, mon frère et moi, d'avoir une bombe alors que nous sommes allés à l'ambassade. Les gens croient que le Canada est un pays arc-en-ciel où tout est merveilleux et ils disent « il n'y a pas de racisme au Canada ». Il y en a certainement. Donc, au même moment où il arrivait ici, il faisait face à certaines attitudes en lien avec la transphobie, c'est-à-dire le fait d'être transgenre, bien, il y avait aussi des éléments de racisme qui s'associaient à ça. Donc, c'est comme une accumulation. Ça peut être extrêmement difficile. Oui. Puis pour les immigrants, parfois, ils n'ont pas non plus le soutien de leur famille parce que ça peut être plus difficile. Puis pas juste pour les immigrants, là, ça peut aussi être pour tout le monde. Donc, il y a plusieurs facteurs qui s'accumulent qui font en sorte que ça peut être une situation extrêmement difficile.
Alors, c'est difficile, mais il y a quand même des solutions. Vous avez peut-être une piste de solution?
Bien oui, je pourrais vous parler de certaines pratiques thérapeutiques qui peuvent être faites. Par exemple, évidemment, vous pouvez aller consulter un psychologue, des professionnels de la santé. Mais il y a une pratique qui est intéressante, c'est la thérapie par les arts. Qui peut être une approche à considérer et permettre de reprendre son pouvoir sur sa vie. Donc,
le fameux empowerment.
Le empowerment.
Un mot tellement facile à dire.
La capacité d'agir qu'on dit aussi.
Ouais,
donc, c'est
bien,
une thérapie qui a montré son efficacité dans d'autres contextes, mais qu'elle est quand même faite ici à Montréal avec des jeunes trans qui sont aussi racisés. Donc, c'est fait avec des jeunes de 14 à 18 ans. Il y a un projet qui s'appelle Safer Space ou Une place pour moi. Donc, les jeunes se regroupent et ils s'expriment à travers plusieurs médiums comme le dessin, la peinture, l'écriture, la musique. Ce sont des ateliers qui sont animés par des art-thérapeutes qui rassemblent environ 5 à 10 jeunes chaque semaine pendant une heure et demie, pendant plusieurs semaines. Donc, c'est un projet qui n'a pas été évalué par les pairs, mais quand même, l'art-thérapie a souvent été évaluée par les pairs puis montre ses effets positifs pour les jeunes.
Alors, pour terminer, il faut souligner le 31 mars, qui est la Journée internationale de la visibilité trans, un moment qui nous rappelle l'importance de comprendre ces jeunes et de les soutenir. Un grand merci pour cette chronique fort utile, Roxane de la Sablonnière.
Merci, Hélène.
À la prochaine.
Au revoir. Bye-bye.